Europe 1, 11h, 12h30.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Pour parler de la BPCO, la bronchopneumopathie chronique et obstructive, et de façon simple, hein, c'est promis, parce que le nom de cette pathologie déjà est très compliqué. Mais vous êtes avec nous, professeur Bruno Housset, bonjour.
Bonjour.
Alors déjà, c'est quoi concrètement la BPCO? Est-ce que vous pouvez nous donner une définition pour cette pathologie? Vraiment, franchement, il aurait fallu trouver un autre nom. Hein, quand même.
C'est vrai, on y a travaillé pas mal, mais on n'a pas trouvé de solution.
Ouais.
Bon, c'est la broncho.
Rapprochez-vous un petit peu de votre micro.
Broncho,
voilà.
C'est-à-dire c'est une atteinte bronchique. Pneumonie, c'est que ça atteint le poumon distal, donc c'est vraiment atteint le poumon lui-même. Chronique, c'est que ça dure pendant des mois, des années. Obstructive, et c'est ça qui tue. Mmh. C'est l'obstruction qui va obstruer les bronches, qui va boucher les bronches et qui va aboutir à l'essoufflement.
Donc ça porte bien son nom, même si c'est un nom compliqué. Quoi.
Absolument.
Alors vous êtes pneumologue et président de la Fondation du Souffle. Combien de patients sont concernés en France? C'est quelque chose de fréquent?
C'est extrêmement fréquent. On pense que c'est à peu près 6 à 8% de la population française qui est atteinte de BPCO, et on sait que ça fait grosso modo 3 à 4 millions de patients adultes.
Quand même, hein.
C'est un chiffre énorme. Et si vous rajoutez d'autres maladies chroniques comme l'asthme, par exemple, vous pouvez aboutir à un Français sur 10 adultes qui souffre d'une maladie respiratoire chronique.
Et plutôt des hommes, des femmes?
Plutôt des hommes encore, mais ça risque de ne pas durer très longtemps.
À cause du tabac. Hein,
actuellement, il y a 60% d'hommes et 40% de femmes. Il y a 10 ans, il y avait 20% de femmes. Donc vous voyez que ça augmente de façon importante du fait de l'augmentation du tabagisme, entre autres. Oui.
Ce sont des patients qui ont quel âge en moyenne quand ça démarre? Parce que, je sais pas, on imagine que cette maladie, la bronchite chronique, quoi, on va dire ça comme ça, c'est plutôt une maladie de vieux fumeurs.
Fumeurs de gitane, oui.
Ouais. C'est ça, je vois à qui vous faites allusion. Et donc, mais c'est effectivement une maladie qui touche les gens de 65 ans à peu près, qui tout ce qui crache. Mais c'est le stéréotype qu'on a dans la tête. Et en fait, ça peut aussi toucher les femmes. Et c'est ça le point difficile pour le diagnostic et le retard diagnostic chez la femme, c'est qu'on n'a pas cette image dans la tête. En fait, ça peut très bien toucher.
Et on peut avoir 35 ans, 40 ans et avoir une BPCO, c'est possible?
Oui, ça peut, c'est possible. C'est rare. Ouais. C'est rare. Mais le point important qu'on a découvert ces années récentes, c'est qu'en fait, ça pouvait prendre ses racines dans l'enfance.
Ah bon?
Et que même une femme enceinte exposée à la pollution, par exemple, pouvait donner naissance à un enfant de petit poids.
Oui.
Et le petit poids de naissance est un facteur de risque pour le développement intérieur d'une BPCO. C'est-à-dire que vous êtes à risque, si vous fumez, vous êtes plus à risque que ceux qui avaient un poids normal à la naissance.
J'ai fumé, je faisais 2,4 kg à la naissance, c'est embêtant.
C'est bien, si vous vous souvenez de votre poids de naissance, c'est bien, mais ce n'est pas le cas de tout le monde.
Évidemment. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment une maladie grave? Est-ce qu'on peut mourir de la BPCO?
On meurt de la BPCO. Et les chiffres sont vraiment impressionnants, parce que c'est 16 à 18 000, 18 000 morts par an. C'est 4 fois plus que les accidents de la route. Et on en parle beaucoup moins.
Oui, c'est
donc
vrai.
C'est vraiment quelque chose de très très fréquent.
Alors pourquoi on n'en parle pas d'ailleurs?
Eh bien parce que 2/3 en fait de ces BPCO ne sont pas diagnostiqués, donc il y a un problème de retard au diagnostic, et puis l'identification de cette maladie...
Est pas facile.
Non, est pas si simple que ça. On va y revenir, je pense. Oui.
Ce qui va causer principalement la BPCO, vous nous l'avez dit, c'est le tabac. Ça nous paraît pas étonnant, le tabac c'est mauvais pour les poumons, mais on sait surtout que ça provoque le cancer du poumon. Qu'est-ce qui se passe justement pour que le tabac cause de la bronchite chronique, comme ça, de la BPCO?
Dans la définition, je vous ai pas infligé l'inflammation des petites voies aériennes. Ah. C'est une inflammation en fait distale des voies aériennes qui font moins de 2 mm de diamètre.
Ça veut dire quoi, distale?
Distale, c'est loin dans les bronches. C'est vraiment ce qui précède juste les alvéoles quand vous arrivez dans les poumons.
Donc c'est inflammé tout le temps.
Et c'est inflammatoire du fait de ce pouvoir agressif inflammatoire de la fumée de tabac.
Oui.
C'est vrai aussi d'autres produits, notamment la pollution. Si vous êtes exposé à une très forte pollution, ça peut aussi arriver. Mais c'est surtout le tabac parce qu'il provoque cette inflammation distale et cette obstruction.
Est-ce qu'il peut y avoir un facteur génétique?
Bien sûr. Nous ne sommes pas égaux devant le tabac. Si vous prenez à peu près 10 sujets qui fument, 8 à 9 vont tous s'écracher. Mais il n'y en a que 2 à 3 qui vont développer une BPCO, qui vont développer une obstruction. Et probablement parce que c'est une interaction entre l'environnement et son génome.
Alors, côté symptômes, on a compris, dans la BPCO, on tousse, mais au départ, est-ce que ça tousse vraiment beaucoup, au départ de la maladie?
Souvent, vous toussez, vous crachez. C'est ce qu'on appelle la bronchite chronique. Mais vous pouvez aussi ne pas tousser, ne pas cracher et voir un essoufflement s'installer progressivement.
Il faut tousser combien de temps? Parce que je veux dire, certains ont eu le Covid, il y a des maladies de l'hiver, là où on aura tous ça, on a des bronchites. C'est quoi la différence entre j'ai une bronchite et je tousse et c'est anormal?
C'est la durée. La bronchite chronique est définie par plus de 3 mois pendant 2 ans consécutifs. Donc ça, c'est pas normal, il faut absolument consulter. Mais quelquefois, vous ne toussez pas et le seul symptôme, c'est l'essoufflement.
Même pas forcément?
D'abord à l'effort et ensuite au repos. Mais à l'effort, et ça, c'est difficile de s'en rendre compte.
Et une fatigue aussi? On peut être fatigué?
Ça, c'est les mots qui sont utilisés pour dire je suis essoufflé. Ça peut est très, très variable. Les sujets âgés, par exemple, qui peuvent avoir une BPCO, ils ont du mal, ils vont dire je suis fatigué. Quand je monte les escaliers, je suis fatigué.
Mais quand on respire mal, on ne doit pas être...
En fait, ils sont essoufflés. Ouais. Et ce bien-être respiratoire, là, on n'est pas préoccupé. Nous, là, autour de ce micro, on n'est pas du tout préoccupé par notre respiration. Ça paraît complètement...
Avec le masque, c'est
normal.
Peut-être...
Le masque, c'est vrai. Le masque a fait prendre conscience aux gens qu'on pouvait être gêné pour respirer. Et donc ça, c'est un point intéressant, parce qu'autrement, on n'a pas de notion de ce que c'est que l'essoufflement.
On respire et puis c'est tout.
On n'y pense pas. Mais quand ça devient vraiment un combat, quand ça devient une souffrance et qu'on voit que ça se rétrécit autour de ce souffle qui manque, ça là, ça devient très, vraiment très, très difficile.
Très pénible.
11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous jusqu'à midi et demi. C'est votre émission Bien-être tous les matins. Alors à présent, on vous éclaire sur ce qu'est la BPCO, la bronchopneumopathie chronique et obstructive, une maladie respiratoire assez fréquente qu'il est important de déceler le plus tôt possible. C'est vous, professeur Bruno Housset, qui nous éclairez sur cette maladie ce matin. Je rappelle que vous êtes pneumologue et président de la Fondation du Souffle. Alors je le disais, mieux vaut la dépister tôt, cette pathologie. Et justement, vous diriez qu'en France, est-ce que c'est le cas en général ?
Hélas. Non. Hélas, nous, on a beaucoup de progrès à faire. J'évoquais tout à l'heure, il y a à peu près 2 cas sur 3 qui ne sont pas diagnostiqués.
Ils ont cette maladie, ils vivent avec, ils souffrent, mais ils ne savent pas qu'ils ont ça.
Ils ne savent pas qu'ils ont ça. Ils sont peut-être un peu âgés, donc ils disent c'est normal, je vieillis, donc je suis un peu essoufflé. Mais non, c'est un problème respiratoire, il faut vraiment se préoccuper. Et ça m'amène à dire qu'on s'est mobilisé là-dessus. On a fait un livre blanc de la BPCO, les pneumologues. On a eu des états généraux respiratoires, de la santé respiratoire au mois de décembre dernier, pour dire qu'il fallait vraiment se mobiliser pour lutter contre les maladies respiratoires qui sont insuffisamment connues. Il y avait eu un sondage qui avait été fait par la SPLF avant ces états généraux de la santé respiratoire. Ce sondage montrait que plus d'un Français sur deux se disait mal informé. Donc on y travaille ensemble en ce moment, mais c'est vraiment important d'informer les Français sur les signes qui doivent alerter.
Alors dans l'idéal, justement, vous disiez, il y a beaucoup de patients qui ne sont même pas au courant qui souffrent de cette maladie, et il faudrait consulter le plus tôt possible, parce que plus on consulte tôt, je ne sais pas, est-ce qu'on a des chances de revenir en arrière? C'est une maladie réversible, par exemple?
Hélas, non. Autant dans l'asthme, je vous dirais que ça revient, on peut revenir à un état antérieur. Autant la BPCO, non, il faut stabiliser en fait l'évolution. Et on sait que si on arrête de fumer, par exemple, on va stabiliser l'évolution. Vous retrouvez un déclin, une diminution de votre fonction respiratoire identique à ceux qui ne fument pas. Et donc c'est ça le point important, c'est d'arrêter de fumer et de se préserver de toute agression environnementale.
Il n'y a pas le choix. Le tabac, ce n'est pas une option dans ces cas-là. Ce
n'est pas une option.
Okay. Et si on commence à avoir une toux qui dure, au bout de combien de temps on consulte?
Je vous disais tout à l'heure que c'était plus de 3 mois par an pendant 2 ans consécutifs. Donc si ça dure plus de 3 mois, il faut quand même se poser des questions, il faut consulter.
Mais qui?
Si vous allez sur le site amélie.fr, il y a un questionnaire qui permet d'identifier éventuellement les signes qui doivent faire consulter un médecin généraliste. Le médecin généraliste,
pas forcément un pneumologue tout de suite, c'est pas nécessaire au départ.
On peut s'il y a des signes de gravité, mais vous savez quand même que 16% des BPCO sont diagnostiqués parce qu'ils arrivent à l'hôpital en exacerbation.
Ça veut dire quoi, exacerbation? C'est une crise,
c'est une poussée de la maladie, en fait. Ils sont très essoufflés.
Ils ont besoin d'oxygène, peut-être, c'est ça ?
Ils peuvent avoir besoin d'oxygène. 16% qui ne sont pas diagnostiqués et qui arrive à l'hôpital, et c'est à ce moment-là qu'on fait un diagnostic. Donc vraiment, c'est important. Donc quand c'est grave, un pneumologue, mais le plus souvent, c'est un médecin généraliste, d'autant qu'il y a des comorbidités. C'est-à-dire qu'il y a d'autres maladies qui sont plus fréquentes qu'on doit rechercher.
Ils ont plus souvent le cancer du poumon, ça, il faut le dire, exemple, malheureusement, ça, parce que c'est des gros fumeurs.
Ils ont
donc
plus souvent aussi des altérations cardiovasculaires, plus souvent des cardiopathies ischémiques.
Risque de faire des infarctus ou des choses comme ça.
Donc ça, il faut, à ce moment-là, quand on fait un diagnostic BPCO, il faut rechercher les comorbidités. Vous voyez que c'est quelque chose de plus large que la pneumologie, et donc c'est vraiment un médecin généraliste qui doit s'occuper de ça.
Alors, quels examens vous allez prescrire pour confirmer que c'est bien une BPCO ?
Il faut mesurer le souffle. Ça, on peut former beaucoup de professionnels de santé.
Vous faites souffler dans un tube, en gros.
On vous demande d'inspirer à fond et de souffler le plus fort possible.
Et vous mesurez la capacité respiratoire, c'est ça ?
Voilà, on mesure la capacité respiratoire.
Comme avec un asthmatique, finalement, non ?
Exactement, mais ça, c'est une manœuvre qu'on utilise pour rechercher des anomalies respiratoires de plusieurs pathologies, plusieurs pathologies différentes. Mais c'est important, et là, on va montrer qu'il y a une obstruction. Et donc, vous expirez un volume qui est inférieur à celui qu'on attend. Et à ce moment-là, on vous donne un bronchodilatateur de façon à voir si ça revient en arrière. Si ça revient en arrière, c'est plutôt un asthme. Si ça ne bouge pas, c'est plutôt une BPCO.
Oui. Donc, on le disait, il y a un risque qu'il y ait un cancer. Du coup, j'imagine chez ces patients qui sont quand même en général tabagiques de longue date, ce n'est pas justement ça qui empêche aussi un peu le diagnostic, je dirais, de la BPCO. Ils ont un peu la trouille que finalement, en cherchant, on trouve encore quelque chose d'encore plus grave, à savoir un cancer pulmonaire.
Oui, mais c'est un sujet quand même qui est complètement différent. C'est sûr que c'est chez les fumeurs qu'on va se poser cette question et que, bien sûr, le fumeur a aussi un déni, il n'a pas envie qu'on aille trouver quelque chose de grave. Mais ceci étant, le dépistage du cancer du poumon, c'est encore un autre sujet avec l'utilisation de scanners, par exemple. Et ça, c'est différent de la spirométrie ou de la mesure du souffle qu'on vient d'évoquer. Mais chez les sujets qui ont une BPCO, on va proposer un scanner à condition qu'ils arrêtent de fumer, avec une perspective de suivi. Enfin, c'est un autre domaine que de dépister le cancer du poumon chez un sujet qui a une BPCO.
Alors, on l'a vu, hein, l'arrêt du tabac n'est pas une option. Les effets, les bénéfices, justement, de cet arrêt sur ces patients, on les voit tout de suite ou pas? Il faut attendre combien de temps?
Il faut être un peu patient, parce qu'il faut attendre 15 jours, 3 semaines. On peut même avoir une augmentation un petit peu de la toux, des sécrétions.
Parce ça, j'ai l'impression que ça le fait à tous les fumeurs. Quand on arrête de fumer, on tousse. Moi, j'ai toussé pas mal au début de l'arrêt du tabac.
Il y a une régénération de l'épithélium, c'est comme ça qu'on explique un peu les choses. Et donc, vous pouvez aussi avoir des troubles du sommeil avec
oui,
une activité
je dormais
onirique,
très mal, ouais, c'est
vrai. Une activité onirique importante. Et donc, enfin des rêves, des choses comme ça. Et donc ça dure 15 jours, 3 semaines, et puis après, vous êtes mieux. On en sent les bénéfices sur l'essoufflement, on en sent les bénéfices sur le goût, l'odorat. On sent mieux les choses et donc on apprécie davantage la bonne chair.
Je crois qu'il est très important chez ces patients BPCO, enfin, qui souffrent de BPCO, de vérifier les vaccinations de ces patients. Pourquoi et contre quoi précisément on vérifie qu'ils soient bien protégés?
Il y a deux vaccins qui sont... Maintenant, il y a un troisième. Mais il y a deux vaccins qui sont de base, qui sont le vaccin antigrippal, qui réduit la mortalité de façon, et les formes graves de grippe.
Quand on a une BPCO, on est plus à risque d'avoir une forme grave de grippe.
Absolument. Donc, il faut vraiment se vacciner contre la grippe. Ça, et c'est relativement suivi. Et le pneumocoque est le deuxième germe contre lequel il faut éventuellement se faire vacciner. On a moins d'éléments de preuve, mais ça reste de bonnes pratiques que de vacciner contre le pneumocoque. Et le troisième vaccin, qui est quand même plus récent, c'est le vaccin contre le Covid. Et donc ça aussi, c'est une population chez qui il faut vacciner.
Ils sont plus à risque, ces gens-là, de faire une forme grave de Covid?
Alors, il y a des choses intéressantes qui ont été faites, notamment en Angleterre, où on montre qu'il y a une diminution des hospitalisations pour exacerbation, de façon générale, l'exacerbation des BPCO. Et ça, c'est la conséquence des mesures barrières. C'est-à-dire que vous limitez l'exposition à différents virus respiratoires. Ça a été vu aussi chez l'enfant. Et puis, par contre, ceux qui sont hospitalisés, pour une exacerbation liée au Covid, ceux-là sont plus à risque de décès. Alors, et donc c'est un argument supplémentaire pour vacciner.
On parlait tout à l'heure des traitements médicamenteux que vous leur prescrivez dans un premier temps. Il y avait les bronchodilatateurs, c'est bien ça?
Oui. Avant de parler de bronchodilatateurs, je dirais qu'il y a d'autres, d'autres approches qui sont non pharmacologiques et qui sont extrêmement importantes à prendre en compte, notamment l'activité physique. Parce que ce sont des gens qui sont souvent... sédentaires, qui ne vont pas bouger, et puis comme ils sont essoufflés, ils vont
rester encore plus. Ils font plus d'efforts en fait au quotidien.
Et donc
c'est
important de leur redonner une activité physique, ça leur redonne une autonomie.
Et ça va les soigner? Le sport va être un médicament pour eux?
Absolument. C'est une réadaptation respiratoire et ça leur redonne de l'autonomie.
Et ils pourraient se passer des bronchodilatateurs ou peut-être pas?
Ça les soulage, c'est deux approches différentes. Mais vraiment, l'activité physique est quelque chose d'extrêmement important.
Et vous leur prescrivez également des corticoïdes ou pas?
Alors, dans les médicaments qu'on utilise, effectivement, ce sont les bronchodilatateurs. Il y a deux classes de bronchodilatateurs. On peut utiliser une classe, puis après l'association des deux classes. Et puis, si ça ne fonctionne pas, si c'est insuffisant pour soulager, on peut essayer la corticothérapie dans des conditions particulières. Il y a une surprescription majeure de corticoïdes inhalés en France, mais aussi dans les autres pays, on n'est pas les seuls. Et donc, il faut vraiment se réserver les corticoïdes pour des cas particuliers.
Bon, tous ces médicaments dont on vient de parler, c'est pour améliorer la qualité de vie, la respiration, mais est-ce qu'il y a on ne peut pas traiter, on est d'accord, on ne peut pas guérir. Il y a des traitements, je crois, endoscopiques. Alors, du coup, vous allez dans les bronches et vous faites quoi concrètement? C'est de la chirurgie?
Alors, pour expliquer ça, en fait, quand vous avez une BPC, vous avez une distension. Ce qui explique que vous soyez essoufflé, c'est que vous êtes distendu. C'est-à-dire que vous avez le poumon qui gonfle, entre guillemets. Et donc, l'idée pour guérir ça, c'était de réduire le volume pulmonaire. Et pour réduire le volume pulmonaire, vous pouvez faire une chirurgie, on enlève un bout de poumon, ça réduit le volume. Et à ce moment-là, comme il y a une diminution de la distension, vous avez les muscles respiratoires qui sont dans une meilleure situation pour fonctionner. D'autres techniques pour réduire le volume, ça a été effectivement les valves endobronchiques. On met des valves qui laissent sortir l'air, mais pas rentrer l'air. Donc ça veut dire que la zone de poumon qui est derrière la valve, c'est... s'écraser et disparaître.
D'accord.
Une autre façon alors ça suppose qu'il n'y ait pas de communication entre les différents lobes. Et donc, il y a des scissures qui peuvent communiquer.
Ouais.
Et donc, ça ne marche pas à tous les coups. Et il y a d'autres façons de faire, c'est de mettre des ressorts, des coils, ce qu'on appelle, et donc ils vont s'enrouler dans le poumon et qui vont par ce biais diminuer le volume. Et puis il y a d'autres techniques avec la vapeur, éventuellement de chauffer, et donc ça va provoquer une inflammation qui va diminuer le volume. Mais tout ça, c'est plutôt du domaine de la recherche, ça reste quand même une indication très sélectionnée.
D'accord. Alors pour conclure, et ce qu'on peut dire à nos auditeurs, aux patients qui ont un doute, surtout vous consulter, parce que si j'ai bien compris, être fumeur et tousser, c'est pas normal. Être fumeur et être essoufflé, c'est pas normal non plus. C'est bien ça la conclusion ?
C'est pas normal. Il y a plein de domaines sur lesquels on peut avancer encore. Par exemple, je vais évoquer le microbiote. Mm-hmm. Vous savez, on a des germes dans les poumons. Et ça, en fait, ça va jouer un rôle aussi dans le développement de la BPCO. Il y a des études, des recherches qui se font là-dessus. Sur les cellules souches, on en parle un petit peu, mais les cellules souches, il y a des gens qui travaillent pour essayer de régénérer le poumon. Je vous dis que ce n'est pas réversible, si on peut trouver
peut-être,
une technique. Donc oui, il y a des pistes de recherche, et c'est pour ça qu'à la Fondation du Souffle, on essaie de financer ce genre
des travaux,
de recherche. On a besoin de votre soutien de ce point de vue. Allez donc sur le site de la Fondation du Souffle.
Pour aider la recherche,
Exactement. Merci beaucoup professeur Rousset de nous avoir accompagnés ce matin et pour toutes ces précisions sur cette maladie respiratoire, la BPCO, dont on parle peu, mais qui est pourtant assez fréquente. Et donc on l'a compris, tout l'enjeu, c'est vraiment de la dépister et de la traiter le plus tôt possible.
Merci beaucoup professeur. Allez maintenant Julia, on va lancer notre séquence tendance, on va l'ouvrir avec la chronique de Marion Sauveur. Aujourd'hui c'est la banane qu'elle va mettre à l'honneur. La banane, tout le monde l'aime en général, mais que peut-on faire concrètement en cuisine avec ? Marion va nous guider. Ensuite c'est Elsa Lévy qui va nous faire découvrir l'écosexualité. C'est de plus en plus à la mode, il s'agit de faire l'amour avec la nature. C'est un peu conceptuel dit comme ça, mais vous verrez c'est très intéressant. Et elle va nous expliquer comment ça, ce que ça donne en fait, hein, dans la vraie vie. Et enfin on écoutera également la chronique de Séverine Pierron qui va nous décrypter ce qu'est le shifting, une tendance chez les jeunes, hein, les 15-20 ans, des petites vidéos très bizarres, mais on va vous expliquer tout ça, donc restez bien avec nous sur Europe 1.